1. À 100% et en tout temps. Alléluia. Merci, Père Céleste. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à recevoir la parole ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui croient de tout leur cœur que Dieu a des bonnes choses pour eux? Dieu est bon. C'est le Père des Lumières. Il veut donner des bonnes choses à ses enfants, mais il faut qu'on soit capable de les recevoir. Et aujourd'hui, on va continuer une série qu'on a commencée sur la foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et j'ai bien hâte, j'ai des choses importantes à partager avec vous. Mais on va préparer notre cœur dans la prière et avec une bonne déclaration de la foi. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez une Bible avec vous? Si oui, prenez votre Bible. Si vous n'avez pas de Bible, vous prenez la feuille que vous avez reçue à la porte avec les versets qui sont écrits dessus. Et on va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil. Et je serai pour toujours et à jamais changé et transformé de gloire en gloire au nom de Jésus. Amen. Donc, vous savez que depuis deux semaines, c'est la troisième semaine aujourd'hui, on parle de la foi. Et on sait que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu, il y a deux choses qui sont nécessaires. Il doit croire que Dieu existe, premièrement, et il faut croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et comme on a dit, la plupart des gens dans le monde même, ceux qui ne sont même pas forcément sauvés, nés de nouveau, la plupart des personnes croient que Dieu existe, n'est-ce pas vrai? Mais ça, ce n'est pas assez. Il ne faut pas juste croire qu'il existe, mais qu'il est un rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et ça égale la foi. C'est comme on a donné l'exemple de la prise électrique. Hein? Pour pouvoir accéder le pouvoir, pour faire sortir la puissance, pour que le courant puisse couler dans notre vie, dans un appareil, que ça soit un clavier, que ça soit une scie ronde, que ça soit, peu importe, il faut que la chose soit branchée, n'est-ce pas? Il faut entrer en contact avec le courant et il faut faire sortir le courant. Comme la femme atteinte d'une perte de sang. Hein? Elle a entendu parler de Jésus. Il y avait une foule autour de Jésus qui le pressait, qui le touchait. Il n'y a rien qui s'est passé pour ces personnes-là. Sauf que quand la femme qui a entendu parler de Jésus, qui a eu la foi, qui a dit en elle-même, si seulement je touche le bord de son vêtement, si seulement je touche le bord de son vêtement, je serai guérie. Si seulement je touche le bord de son vêtement, je serai guérie. Et finalement, elle a touché le bord de son vêtement, la puissance a coulé. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Il a ressenti en lui-même une puissance qui est sortie. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est que ce n'est pas le fait de toucher physiquement qui fait sortir la puissance. C'est de toucher avec la foi. De croire qu'il existe, de croire qu'il est un rémunérateur et de recevoir cette puissance. C'est ça qui fait la différence. Les deux aveugles qui criaient, fils de David et miséricorde. Et Jésus a dit, croyez-vous que je suis capable, que je peux faire cela? Ils ont dit, oui, on croit. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il vous soit fait selon votre foi. Hein? Le centenier qui avait le serviteur qui était malade, qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'il vous soit fait selon votre foi. Jésus a souvent dit, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Donc, ce n'est pas une question que Dieu décide, je veux bénir une terre, je veux guérir une telle, je veux laisser un autre malade. La question ici, c'est est-ce que nous avons la foi ou non? Est-ce que nous avons le bon connecteur pour faire la bonne connexion? Est-ce qu'on est branché à la puissance par la foi? Et on a parlé de cela la semaine passée, l'importance de chercher la parole de Dieu, de méditer, de confesser sa parole, de surmonter les obstacles avec persévérance et de chercher un point de contact pour relâcher notre foi. Mais aujourd'hui, on veut voir dans un autre sens quelque chose de bien important concernant la foi. Et pour commencer, j'aimerais qu'on lise ensemble Jacques chapitre 1, verset 5. Jacques chapitre 1, verset 5. Quelque chose que l'Esprit Saint a dit à travers Jacques, Il a dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose ici? Dieu donne à qui? À tous. Dieu ne fait exception de personne, n'est-ce pas? Quiconque croit peut être sauvé, n'est-ce pas? Et si quiconque croit peut être sauvé, moi, je laisse-moi vous dire, quiconque croit peut recevoir n'importe quelle promesse de Dieu. Si Dieu l'a promis, si Dieu l'a dit, si c'est écrit, et ça vous appartient selon la parole de Dieu, je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Amen? Et si la Bible dit que Christ m'a racheté de la malédiction de la loi, je suis racheté. Si la Bible dit qu'il a pardonné toutes mes iniquités, je suis pardonné. S'il a dit, c'est lui qui guérit toutes tes maladies, et par les mains précieuses de Jésus, j'ai été guéri, je suis guéri, n'est-ce pas? Et ici, on a un autre exemple. Si quelqu'un manque de la sagesse, qui demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche. J'aime cette partie-là. Et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande comment? Avec foi. Tout le monde dit avec foi. Sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. C'est-à-dire qu'on a besoin de sagesse. Seigneur, j'ai besoin de la sagesse pour une telle situation. Et puis on commence à dire, merci Seigneur, tu vas me donner ta sagesse, j'ai ta sagesse. Mais puis, quelques minutes plus tard, on demande, oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais y arriver? Oh non, mais Seigneur, tu m'as donné la sagesse. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Oh, mais tu m'as donné la sagesse, mais qu'est-ce que je vais faire? Vous comprenez? C'est comme une personne qui prie, merci Seigneur, que j'ai été guéri et, oh, mais j'ai mal. J'ai été guéri, mais, oh, Seigneur, quand est-ce que tu vas me guérir? Oh, tu comprends? C'est comme une personne qui prie et dit, oh, merci Seigneur, je suis sauvé, je suis né de nouveau, mais, oh, je me sens pas, je ressens plus les émotions que j'avais au début. Est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Oh, non, mais je suis sauvé, mais, oh, mais, je ne sais pas, est-ce que je suis vraiment sauvé? Oh, mais je suis sauvé, mais, oh, est-ce que j'ai commis le péché impardonnable? Vous voyez l'image? La Bible parle de cet homme et la Bible dit que cette personne est comme celui qui est vraiment poussé, poussé, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Une personne qui n'a pas la foi stable est une personne qui est poussée et ballottée. Amen. Quand tel homme, et voici verset 7, regardez bien, quand tel homme ne s'imagine pas qui recevra quelque chose du Seigneur. On parle de recevoir de Dieu, parce que Dieu est un Dieu qui donne à tous avec libéralité, sans reproche. Il donne, et il donne, et il donne. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique. Et selon Romains chapitre 8, comment celui qui n'a pas épargné son propre Fils, comment ne donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Comment on dit, mon Père m'aime. Et il m'a tout donné. C'est vrai. Le problème, c'est pas avec Dieu. Le problème, c'est pas que Dieu, la main de l'Éternel n'est pas courte. Hein? Dieu n'est pas gratteux. Vous êtes d'accord? Dieu n'est pas, mais je ne sais pas. Il est généreux. Et il donne avec libéralité et il donne à tous. Il donne à tous. Comme j'ai dit, la prise ici ne fait exception de n'importe quel appareil. On branche une scie, la prise ne va pas dire, mais j'aime pas les scies, je veux pas laisser partir mon courant. On branche un piano, ah oui, ça, j'aime la musique, on va laisser couler la puissance. Non, la puissance est disponible pour tous ceux qui sont branchés. Et les bénédictions de Dieu sont disponibles pour tous ceux qui sont branchés. Amen. Mais qu'est-ce qu'on sait? Et moi, je le sais très, très bien que souvent, il y a des choses que Dieu m'a promis que je n'ai pas été capable de recevoir. Ou j'ai eu de la misère ou la difficulté à recevoir. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez vécu cela? Il y a des choses que vous voyez dans la Bible, c'est comme, je sais que Dieu m'a promis cela, je sais que ça m'appartient, mais pour une raison quelconque, j'ai eu, et je parle de moi, Ken Taylor, j'ai eu de la misère à recevoir certaines choses. Est-ce que vous avez eu cette expérience? Pourquoi? Est-ce que le problème encore est avec la... Est-ce qu'il y a un problème avec la prise? Hein? Des fois, il y a un problème dans le naturel, on a besoin d'appeler un électricien pour réparer une prise. Il y a un problème. Rien ne fonctionne, n'est-ce pas? Mais laisse-moi vous dire, quand on parle de Dieu, on n'a pas besoin d'une réparation. Dieu, il est parfait. Il est parfaitement bon, il est parfaitement généreux aussi. Et le problème, s'il y en a, c'est pas avec lui, le problème c'est toujours de notre côté, n'est-ce pas? Hein? En quelque part, c'est pas un problème avec la source de la puissance. Le problème, c'est avec nous, notre capacité de recevoir la puissance, n'est-ce pas? Et je trouve ça de valeur, et c'est délicat qu'est-ce que je dis, parce que si vous ne faites pas attention, il y a des personnes qui vont dire, oh, mais est-ce que vous êtes en train de me dire que j'ai un problème? Pas dans ce sens-là. C'est pas que vous êtes méchant. C'est pas parce que vous n'aimez pas Dieu. C'est pas parce qu'il y a un problème comme tel. Mais si le contraire est vrai, hein? J'ai vu trop de chrétiens qui sont prêts à pointer le doigt à Dieu en disant, mais de toute évidence, c'est pas la volonté de Dieu. De toute évidence, le problème c'est avec lui. Et ils aimeraient mieux pointer le doigt à Dieu en disant, mais c'est Dieu. Il ne veut pas. Que de dire, peut-être en quelque part, il y a un problème avec moi. Pas un problème dans le sens que je suis dans le péché, pas un problème dans le sens que j'ai pas un bon cœur, pas un problème dans le sens que j'aime pas Dieu, mais un problème, des fois, c'est un manque de connaissance. Mon peuple périsse faute de connaissance. Amen. Ça m'est arrivé souvent d'avoir des choses, des outils, par exemple. Je vais donner un exemple. Qui, ici, vous avez des jeunes enfants? Vous savez que aujourd'hui, on est tellement gâtés. On a des choses incroyables pour les enfants. Des poussettes, des petites carrosses, la haute technologie, hein? Et même, je reste émerveillé parce que ça va de plus en plus. C'est vraiment quelque chose. Parce que mes enfants, ma plus jeune a 5 ans. Et déjà, j'ai vu quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui avait une nouvelle poussette et... D'habitude, je suis bon hein, pour savoir comment le faire fonctionner, mais c'est tout nouveau. Depuis 5 ans, les choses ont changé. Et ça prend un parent courant pour opérer ces choses, n'est-ce pas? Et vois-tu encore, c'était souvent le cas avec nous. On peut recevoir quelque chose, une poussette, et vous savez qu'il y a un certain truc. Il faut peser sur un certain bouton ici, et puis tirer quelque part, et puis la chose va fonctionner comme il faut, n'est-ce pas? Et on peut lutter avec ça pendant une heure, et on peut dire, mais cette affaire, c'est brisée, on va la ramener au magasin. Ça marche pas. Non. Et puis quelqu'un arrive, qui sait quoi faire, il pèse sur le bouton, il tire ici, ça marche. Aucun problème, c'est flambant neuf. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Souvent, c'est la même chose avec notre foi. On peut lutter avec les choses et des fois, c'est juste une question qu'on n'a pas compris les instructions. C'est une petite affaire, un petit réglage à faire. Et si on règle l'affaire, la puissance va couler. Amen? Donc, écoutons, parce que c'est important, parce que Dieu veut qu'on soit un peuple rempli de foi, n'est-ce pas? Mais regarde bien. Une chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est que quand on parle de la foi, que votre foi peut être mesurée. Des fois, le problème, c'est que vous avez la foi, mais votre foi n'est pas encore développée. On a besoin de grandir dans la foi. Mais juste premièrement, je voulais regarder quelques versets des Écritures ici qui vont nous montrer que vous pouvez mesurer votre foi. Parce que vous êtes chrétienne ne veut pas dire forcément que vous avez une foi qui est forte dans tous les domaines. Et il se peut que vous avez besoin de juste un petit réglage. Et que ce réglage va régler toutes sortes de problèmes dans votre vie, n'est-ce pas? En fait, c'est l'apôtre Paul qui a dit sous l'inspiration de l'Esprit en 2 Corinthiens 13:5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » C'est-à-dire que tout le monde pointe le doigt à vous-même. Hein? Tout le monde dit, « Je vais examiner moi-même. » Pointez pas le doigt à votre voisin en disant, « Mais je vais examiner sa foi. » Patrick, est-ce qu'il y a vraiment la foi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hein? Est-ce qu'il a la foi? Non, ce n'est pas la question. La Bible dit, « Examinez-vous vous-même. » Et c'est une bonne chose. Ce n'est pas une examination avec une attitude critique ou négative. C'est positif, n'est-ce pas? On peut faire un sondage, on peut se poser des questions, on peut s'examiner soi-même pour voir si on a de la foi. Parce qu'en réalité, on voit dans la parole de Dieu qu'il y a au moins 3 catégories de personnes et 3 catégories de foi qui existent chez les gens. Premièrement, il y a ceux qui n'ont pas de foi. Dans vos notes, il y a ceux qui n'ont pas de foi, la Bible en parle, au reste, frère, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous, afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Donc, il y a des gens dans le monde qui n'ont pas la foi, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils peuvent avoir la foi? Oui. Nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et ça, c'est même le don de Dieu, n'est-ce pas? Et la foi, c'est un don que Dieu offre à tout le monde. Et si les gens entendent la bonne nouvelle, la foi peut prendre naissance dans leur cœur. Et ceux qui n'ont pas la foi aujourd'hui peuvent avoir la foi, n'est-ce pas? Bonne nouvelle. Mais il y a ceux qui n'ont pas de foi. Et je crois que je serais vraiment étonné s'il y a quelqu'un ici aujourd'hui dans cette catégorie. Je croirais que tout le monde ici a une mesure de foi. C'est pourquoi vous êtes à l'église. D'habitude, les gens ne vont pas à l'église s'ils n'ont pas de foi. N'est-ce pas? Donc, vous avez de la foi. Mais, probablement, vous allez tomber dans une de ces deux autres catégories. Jésus a parlé de ceux qui avaient peu de foi aussi. Ça m'en dit peu de foi. Et c'est incroyable. Moi, j'ai étudié cela, j'ai médité cela, j'ai regardé les versets qui parlaient de cela. Combien de fois Jésus fait référence à la foi des personnes? Combien de fois? Ce n'est pas une chose isolée, mais c'est une chose qu'on voit partout dans les évangiles et partout dans les épîtres. Amen? Littéralement, des centaines de fois que la foi est mentionnée. Et ici, on voit un exemple, par exemple, à Matthieu, chapitre 14, verset 26. « Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme. » Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » On dit, « N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Papier, Pierre. Félicitations, hein? Non, Pierre, il est sorti de la barque. Il a marché sur les eaux. C'est pas Jésus qui marche sur les eaux là. Jésus marchait déjà sur les eaux. Il était là. Mais Pierre marchait au même temps que Jésus sur les eaux. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord que ça a pris de la foi? En fait, vous savez qu'il est impossible de marcher sur les eaux, sauf au Québec, on peut le faire. En hiver, c'est facile. On peut marcher sur la rivière, sur les lacs, il n'y a aucun problème, on peut aller à la pêche, on peut marcher sur les eaux. Mais là, en Israël, laisse-moi vous dire, marcher sur les eaux, c'est une impossibilité humaine, n'est-ce pas? Sauf que Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. On va le dire ensemble, tout est possible à celui qui croit. Il croyait à quoi? ils croyaient à la parole de Jésus. En fait, ils ne marchaient pas sur les eaux, en fait, ils marchaient sur la parole de Jésus. N'est-ce pas? Moi, je ne pense pas qu'on peut juste aller marcher sur les eaux juste pour le fun, pour le plaisir, juste pour impressionner nos amis, hein? Mais si on a une parole de Dieu et on sait que c'est la volonté de Dieu pour nous de marcher sur les eaux, on peut avoir la foi, parce que la foi commence là où la volonté de Dieu est connue, n'est-ce pas? Il y a certaines choses qui sont écrites noir et blanc. On sait, c'est la volonté de Dieu révélée pour moi. Donc, je peux marcher sur cette parole. Il y a d'autres choses, hein? Il y a des fois, peut-être, dans votre vie, le Seigneur aura besoin de vous aider à marcher sur les eaux, littéralement. Et si c'est la volonté de Dieu pour vous, à ce moment-là, vous allez avoir la foi pour cela, vous allez pouvoir le faire, n'est-ce pas? Amen? Donc, c'est important. La foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Mais, continuons cette lecture ici. Il dit, il était sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut quoi? Peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme, peu de foi. Pourquoi as-tu douté? » Si je suis honnête avec moi-même ce matin, laissez-moi vous dire, juste pensons à cela une minute. Ce message va vous encourager. Mais pour être encouragé, des fois, on a besoin de regarder la dure réalité des choses, n'est-ce pas? Ici, on voit un homme qui vient de marcher sur les eaux. Et Jésus dit, homme de peu de foi. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Peut-être, c'est trop facile des fois de dire, mais moi j'ai la foi, mais avons-nous vraiment la foi que Dieu veut que nous ayons? Ce n'est pas pour nous décourager, comme j'ai dit, on va vous encourager ce matin. Parce que la bonne nouvelle, c'est que même si on a peu de foi aujourd'hui, ça peut changer. Et nous avons le contrôle là-dessus. Amen? Mais regarde bien. Là, Jésus vient de dire, homme de peu de foi, on pourrait dire, mais Seigneur, c'est presque une reproche, c'était dans un sens une reproche. Mais vous savez que Dieu reprend ceux qu'il aime, n'est-ce pas? Et en quelque part, ça nous fait du bien. Seigneur, j'ai besoin de peut-être de grandir dans ma foi. Je peux me contenter avec le niveau de foi que j'ai, et je peux avoir qu'est-ce que j'ai toujours eu. Ou je peux dire, non, il y a plus. Je vais grandir. Je vais faire davantage. Je vais pouvoir recevoir davantage de Dieu. Amen. Donc, vaut mieux regarder la réalité en disant, bon, peut-être j'ai un peu de place pour l'amélioration. Hein? Je sais que vous êtes presque rendu. Mais peut-être il y a juste une possibilité que vous avez de la place pour améliorer et faire grandir votre foi, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord? Mais regarde bien, on voit qu'il y a quelque chose. Il dit ici, homme peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. C'est-à-dire que de toute évidence, il marchait encore sur les eaux une fois qu'il a pris la main de Jésus, n'est-ce pas? Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Donc là, on voit Pierre, il avait la foi, il marchait sur la parole de Dieu, il marchait sur les eaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Jésus a dit, homme, peu de foi? Quelles sont les caractéristiques de ceux qui ont peu de foi? Premièrement, ils ont peur. Deuxièmement, il se laisse influencer par les circonstances. Voyant le vent, les vagues, voyant qu'est-ce qui se passait, au lieu de garder les yeux fixés sur Jésus qui est la parole, il a commencé à regarder les circonstances. Wow! Il y a toute une tempête ici et il a laissé entrer la peur et la crainte dans son cœur. Et ça, c'est la caractéristique primordiale d'une personne qui a peu de foi. comparé à la troisième catégorie de personnes, ça c'est ceux qui ont une grande foi. Et j'utilise les paroles de Jésus. Ce n'est pas moi qui invente le message ce matin, vous êtes d'accord? Regarde bien, on va lire l'histoire en Luc chapitre 7, verset 2, du centenier. On a déjà fait mention de cela. On a mentionné la version du Matthieu chapitre 8 la semaine passée. Mais ici en Luc chapitre 7, verset 2. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Donc on voit que c'est sérieux son affaire, n'est-ce pas? C'est pas une petite rhume. C'est pas prendre deux aspirines, couchez-vous, appelez le médecin le lendemain. Le gars est en train de mourir. Sur le point de mourir. Et a entendu parler de Jésus. Ça me fait penser à la femme atteinte d'une perte de sang, n'est-ce pas? Et ont entendu parler de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend. Et ont entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs. Vois-tu, on voit quelque chose. Dans l'autre version, c'est marqué qu'il est venu voir Jésus, mais on voit, en fait, il est venu par l'intermédiaire de ses serviteurs. Et ça va de pair avec ce qu'on va voir. C'était un homme qui comprenait le pouvoir de la délégation. Il a délégué à ces personnes d'aller. Et il a dit, il envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instants supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Verset 6, Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Et là, on voit, c'est un homme qui n'est pas né de nouveau, c'est même pas un juif. On voit ici que c'est quelqu'un qui avait besoin de Jésus, mais qui n'était pas sous l'alliance de l'Ancien Testament. Vous comprenez? Mais quand même, il avait foi. On va voir cela. Verset 7. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Verset 8. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un va et il va. Et à l'autre vient et il vient. Et à mon serviteur fait cela et il fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Vous savez que Dieu admire la foi. Admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Tout le monde dit grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Et on sait qu'en Matthieu 8, Jésus a dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. N'est-ce pas? Donc là, on voit les trois genres de foi. Ceux qui n'ont pas de foi, ceux qui ont peu de foi et ceux qui ont une grande foi. Et la différence entre ceux qui ont une grande foi et ceux qui ont peu de foi, c'est que ce monsieur-là, il ne se laissait pas déranger par les circonstances et il ne mettait pas sa confiance sur ce qu'il pouvait voir. Il mettait sa confiance seulement et uniquement dans la parole de Jésus. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Et on a besoin, si on va avoir une grande foi, il faut qu'on arrive à la place où on est capable de dire, Dieu l'a dit. C'est fini. Amen. Pas, ok Seigneur, tu as dit dans ta parole que, mais maintenant donne-moi un signe que tu veux vraiment le faire. Hein? Fais-moi un signe, donne-moi un indice que tu vas vraiment exaucer ma prière. Fais quelque chose pour que je puisse savoir. Donne-moi un frisson. Je veux voir la chair de poule sur mon bras. Oh là, je sais que tu vas le faire parce que j'ai ressenti des frissons. Ou je sais que tu vas le faire parce que quelqu'un a prophétisé sur moi. Ou je sais que tu vas le faire parce que j'ai demandé que si c'est vraiment ta volonté, que je puisse voir deux oiseaux voler au-dessus de ma tête à midi. Il y avait deux oiseaux au-dessus de ma tête, donc je sais que ça va... Non, il faut arriver à la place où on croit à la parole de Dieu. Il est écrit. C'est fini. Amen. Ça, c'est la différence entre une grande foi et peu de foi. Un peu de foi croit, mais se laisse quand même influencer par les circonstances. C'est-à-dire, on prie, on croit, mais si on a des circonstances qui contredisent la parole de Dieu, on doute. Et on laisse entrer la peur. Abraham, c'était un bon exemple. En Romains chapitre 4, c'est pas dans vos notes. Mais en Romains chapitre 4, vous êtes d'accord que Abraham avait une grande foi, n'est-ce pas? En fait, la Bible dit que c'est le père de tous ceux qui croient. Et Abraham, en Romains chapitre 4, on voit quelque chose de bien important ici. Verset 17 dit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. » Je l'ai mentionné la semaine passée, qu'Abraham disait toujours, « Bonjour, mon nom, c'est le père d'une grande nation. Salut, je suis le père d'une grande nation. Salut, je suis le père d'une grande nation. » Il n'avait même pas un enfant avec son épouse. Il avait juste eux parce qu'au moment donné, il a essayé d'aider Dieu. Il a eu un fils, Ismaël, avec sa servante. N'est-ce pas? Ça, c'est pas une grande nation. Vous êtes d'accord? Et surtout, c'était pas la nation que Dieu a promis. La nation que Dieu a promis, c'était avec Sarah. Donc là, on voit quelque chose ici, par exemple, verset 18, « Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Et verset 19 nous donne une clé importante. « Et sans faiblir dans la foi. » On dit « sans faiblir dans la foi. » Qu'est-ce qu'il a fait pour ne pas faiblir dans la foi? Est-ce que vous êtes d'accord que Pierre a laisser sa foi s'affaiblir. Parce qu'il marchait sur les eaux. Il a eu du succès. Marcher sur les eaux, c'est quelque chose, n'est-ce pas? Et ça marchait au moment donné, mais il a laissé sa foi s'affaiblir. Ici, on voit que Abraham, le père de tous ceux qui croient, sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Encore, c'est la promesse de Dieu. Il ne croyait pas n'importe quoi. Il croyait la parole de Dieu. Et c'est là où beaucoup de gens vont avoir de la difficulté. Ils vont faire des choses bizarres. Ils vont dire que c'est la foi. Ils essaient de croire pour les choses que Dieu n'a pas promis. Est-ce que vous êtes là? Mais si Dieu l'a promis, on peut lui faire confiance. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Donc on voit que, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps. Compare cela avec Pierre. Pierre marcha sur les eaux. Mais Pierre considérait le vent, les vagues, la tempête. Il s'est laissé distraire par les circonstances. Tandis que Abraham, Dieu a fait une promesse, et au lieu de dire, « Mais mon corps, je suis vieux, ça ne marche plus. » Au lieu de regarder son épouse en disant, c'est une jolie fille, mais elle n'est plus à mes yeux d'avoir des enfants avec moi. Au lieu de considérer les circonstances et de laisser entrer la doute et l'incrédulité dans son cœur, il a fixé ses yeux sur la promesse. Amen? Et ça, c'est la différence entre ceux qui ont peu de foi et ceux qui ont une grande foi. Ceux qui ont peu de foi vont croire pour un peu de temps, mais puis ils vont fixer les yeux sur les circonstances, tandis que ceux qui ont une grande foi vont garder les yeux sur la promesse. Amen. Et donc, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on apprenne à garder nos yeux sur la parole. Peu importe qu'est-ce qui arrive. Amen. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert une chose. Souvent, quand on prie, on croit et on demande quelque chose à Dieu, souvent, le contraire peut arriver. Ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises d'avoir des symptômes dans mon corps physique et je prie pour recevoir la guérison et les symptômes s'empirent. Et là, c'est là où on a le choix à faire. Est-ce que je vais croire aux symptômes ou est-ce que je vais croire à ce que Dieu a dit? Amen? Il y a des fois, des personnes vont être sauvées et puis le lendemain, les émotions sont toutes parties. On ne marche pas par les filets, on ne marche pas par les émotions, on marche par la foi en Jésus-Christ. Et si je ressens dans mon cœur que Dieu est avec moi, tant mieux. Mais si j'ai aucun sentiment, aucune émotion, je crois quand même parce que Dieu l'a dit et je suis sauvé. Amen? Et le même principe s'applique à n'importe quel domaine de votre vie. Tout ce que Dieu a promis, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Deuxième page de vos notes. On voit que notre foi peut être mesurée. Donc, ce n'est pas à moi de prendre mon galon spirituel et mesurer votre foi. Oups, c'est peu, c'est grand, ou pas du tout. Ça, c'est à vous de faire. Regardez dans votre miroir spirituel. Posez-vous la question. Soyez honnête avec vous-même et avec Dieu. Posez-vous la question. Seigneur, est-ce que j'ai peur? Si vous avez peur, vous avez peu de foi. Officiellement. Parce que la foi et la peur sont les forces opposées. Et il est impossible d'avoir foi et avoir peur en même temps. Donc déjà, c'est un bon indice. Si vous êtes plus porté à être influencé par les circonstances que par la parole de Dieu, vous avez peu de foi. Et ça, c'est pas pour accuser qui que ce soit. Moi, je parle à moi-même aussi. Parce que qu'est-ce qu'on va voir? Deuxième chose, c'est que vous pouvez augmenter votre foi. Et qu'aujourd'hui, si vous vous trouvez dans une catégorie de personnes qui ont peu de foi, vous pouvez faire partie de la catégorie de gens qui ont une grande foi. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Vous êtes en train de réfléchir ce matin, oui? Pas à vous endormir, j'espère. Tout le monde dit, oh, c'est un bon message. C'est un bon message. C'est un message dont nous avons besoin. Parce que moi, je veux avoir une grande foi. Et vous? Vous pouvez augmenter votre foi. Regardons juste quelques versets qui prouvent cela. Luc 17, 3 à 6 dit, et s'il a péché contre toi sept fois dans un jour et que sept fois il revienne à toi disant je me repens, tu lui pardonneras. C'est Jésus qui parle à ses disciples, qui parle de l'importance de pardonner ceux qui nous offensent. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Savez-vous que ça prend la foi pour pardonner les autres? Et qu'est-ce qu'ils ont demandé? Augmente-nous la foi. C'est-à-dire qu'ils savaient que j'ai besoin de davantage. Ma foi doit être plus grande pour pouvoir pardonner sept fois dans une journée la même personne pour la même offense. Et le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycamore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Je ne sais pas si on comprend jusqu'à quel point la foi est forte. Si Pierre était capable de marcher sur les eaux avec peu de foi, imaginez qu'est-ce qu'on peut faire avec une grande foi. Est-ce que vous êtes là? Donc, peut-être que vous êtes tenté à dire, « Ah, ben, je vais me satisfaire avec un peu de foi d'abord. Hein? » Non, 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 non. On ne va pas être satisfait ou content avec quelque chose de moins que le meilleur que Dieu veut nous donner, n'est-ce pas? Et un autre verset de Thessaloniciens 1, 3 qui dit, « Nous devons, à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. » On a parlé de ça mercredi soir. Votre foi peut être augmentée, votre foi peut faire du progrès. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? On peut continuer. 2 Corinthiens 10, 15, « Mais c'est avec l'espérance si votre foi augmente. » De grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées. Si votre foi, si, ça c'est conditionnel, n'est-ce pas, augmente. C'est-à-dire que votre foi peut être augmentée, mais c'est conditionnel. Est-ce que vous êtes content ce matin? OK, bon. Il faut installer un miroir ici, hein? Parce qu'il y a des visages, des fois, c'est comme... Vous êtes juste en train de réfléchir, n'est-ce pas? Je suis heureux. Souriez, ça fait pas mal. Regardez votre voisin et souriez, hein, comme il faut. Tout le monde dit, j'aime la parole de Dieu. Je crois que vous êtes en train de réfléchir, hein? Mais regardons. On voit que notre foi peut être augmentée. C'est une bonne nouvelle. Dieu ne fait exception de personne. C'est-à-dire que tout le monde dans cette salle peut avoir une grande foi. Tout le monde, sans exception. Faites pas l'erreur de penser, mais eux autres, ils ont une grande foi, mais moi, j'ai une petite foi. Non, non, non. Vous pouvez avoir une grande foi. Mais c'est à vous de faire augmenter votre foi. C'est à vous de faire croître votre foi. Amen. Gloire à Dieu. Souvent, on va placer des limites sur soi-même. On va placer des limites sur Dieu. C'est nous qui mettons les limites, c'est pas Dieu. Enlevons les limites. Croyons pour le meilleur. Une chose que je voulais juste souligner aussi, j'ai marqué un verset dans vos notes, Actes 14, verset 8 à 10. Il dit ceci, « À Lystre se tenait assis un homme important des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. » Vois-tu qu'est-ce qu'il fait? Il écoutait parler. Il entendait les choses, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Paul disait? Penses-tu qu'il racontait des contes de faits? Je pense que non. Penses-tu qu'il racontait des blagues? Je pense que non. Je pense qu'il racontait et il prêchait la parole, n'est-ce pas? La parole de Jésus-Christ. Il écoutait la parole de Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, n'est-ce pas? Donc, il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. D'où venait cette foi pour être guéri? Est-ce qu'il avait la foi pour être guéri avant que Paul a prêché? Je crois que non. C'est après avoir entendu parler de Jésus et d'avoir entendu la parole, le message de la foi, que la foi a pris naissance dans son cœur et spécifiquement, il avait la foi pour être guéri. Et dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Je voulais souligner ceci, que dans la vie chrétienne, il est possible d'avoir peu de foi dans un domaine et avoir une grande foi dans un autre domaine. Lui, il avait la foi pour être guéri. Mais est-ce qu'il avait la foi pour toute autre chose? Peut-être non. On ne sait pas. Moi, je connais des chrétiens qui ont énormément de foi. Ils ont une grande foi par rapport à leur salut éternel. Ils savent, sans aucune doute, il n'y a pas une personne sur la planète qui pourrait les convaincre qu'ils ne sont pas sauvés et qu'ils n'ont pas une place réservée au ciel et que leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Tu ne peux pas les convaincre autrement. Mais la même personne qui est tellement convaincue qu'il y a une foi inébranlable pour le salut a de la misère des fois à recevoir la guérison. Il a peu de foi au niveau de la guérison. Ou la même personne qui a des personnes qui ont une grande foi pour la guérison divine, ils vont marcher dans la santé, mais il y a d'autres promesses dans la parole de Dieu. Par exemple, pour la provision financière, ils ont de la misère, ils n'ont pas de la foi, ils ont peu de foi pour les finances, mais une grande foi pour la guérison. Ou une grande foi pour les finances, mais peu de foi pour la guérison. Ou, vous savez, une grande foi pour la sagesse, mais peu de foi pour autre chose. Et là, c'est pourquoi on dit on va s'examiner soi-même. Juste parce que vous avez une grande foi dans un domaine ne veut pas forcément dire que vous avez une grande foi dans tous les domaines. Donc, ne faites pas l'erreur parce que j'ai vu cela. Des personnes, par exemple, qui sont mortes d'une maladie après avoir reçu la prière pour la guérison, et les personnes dans l'entourage disent « Mais je ne comprends pas, cette personne avait une grande foi. » Cette personne avait confiance dans le Seigneur. Cette personne aimait le Seigneur de tout son cœur. Cette personne était convaincue qu'il était sauvé.
Oui, mais est-ce que cette personne était convaincue vraiment que toutes les promesses de Dieu pour la guérison, par exemple, lui appartenaient? Peut-être qu'il avait peu de foi dans ce domaine. On ne sait pas. Ce n'est pas à nous de juger, mais vous comprenez? Donc, mais c'est à vous de vous juger vous-même. Regardez, qu'est-ce que Dieu vous a promis? Tous les domaines de la vie chrétienne, sur tous les plans, sagesse, famille, finances, santé, toutes les choses que Dieu a promis dans la parole de Dieu. Et posez-vous la question, est-ce que j'ai une petite foi ou une grande foi dans ces domaines? Amen. Il y a une autre chose qu'on peut voir dans le verset 1 Thessaloniciens 3:10. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Donc, on sait qu'on peut avoir une foi qui a besoin d'être augmentée. On peut avoir foi dans un domaine et pas de foi dans un autre domaine ou peu de foi dans un autre domaine. Et aussi, on peut avoir les éléments qui manquent à votre foi. Ce n'est pas moi qui le dis. Des personnes qui me regardent comme si je créais une nouvelle doctrine. C'est peut-être la première fois que tu l'entends, mais c'est la Bible ici. Ils voulaient aller les voir pour compléter ce qui manquait à leur foi. C'est-à-dire qu'on peut avoir la foi en Dieu, mais les éléments manquants. C'est comme quand on va faire l'assemblage de cette poussette. Hein? Si on a quelques morceaux qui manquent, ça ne va pas fonctionner. On manque des morceaux. Donc, il faut appeler la compagnie, ils vont nous envoyer les morceaux et ils ont hâte de nous livrer les morceaux pour qu'on soit content et qu'ils vont compléter ce qui manquait à notre poussette, n'est-ce pas? Même chose dans la foi. Il y a des éléments, des fois, qui manquent dans notre foi et on a besoin de recevoir ces éléments pour que notre foi fonctionne à pleine capacité à 100%, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire grandir notre foi? Pour compléter les choses à notre foi, quatre choses, et on va terminer avec ces quatre choses ici. Quatre choses pratiques. Qui veut avoir une grande foi? Numéro un, nourrissez votre foi en écoutant la parole de Dieu. La foi a besoin d'être nourrie. Si vous voulez avoir une foi qui est forte, une foi qui est grande, un bébé a besoin de manger afin de grandir. Vous êtes d'accord? Si le bébé ne mange pas, le bébé ne grandit pas. Si votre foi ne mange pas, votre foi ne grandira pas. Donc, il faut nourrir votre foi et laisser crever de faim vos doutes. Et malheureusement, il y a trop de chrétiens qui prennent beaucoup de temps pour nourrir leurs craintes, pour nourrir leur incrédulité. Comment? Ils écoutent la mauvaise chose. Ils passent plus de temps à écouter les nouvelles et tout ce que tout le monde dit dans le monde. Hein? Laissez-moi vous dire, j'ai vu des choses. Quand ils ont augmenté le prix du gaz, j'ai lu dans les journaux, ils ont fait des entrevues avec des personnes, c'est comme la panique. Oui, c'est sérieux. Oui, ça coûte cher. Hein? Oui, tu mets 20$ dans ton tank, tu peux te rendre au boulevard Lemire, c'est correct. Mais Dieu sait, n'est-ce pas? Dieu le sait. Et Dieu a promis de pourvoir tous nos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il parle que, c'est la saison de la grippe. Et cette année, il y a une nouvelle grippe qui est sortie sur le marché, hein? C'est résistant à tous les traitements et il n'y a rien qu'on peut faire et c'est dangereux. Il y a probablement les personnes qui vont mourir cette année à cause de cette grippe. Et on écoute cela, et on entend cela, et on médite cela, et on laisse entrer la peur et la crainte. N'est-ce pas? Faisons attention à ce qu'on écoute. Moi, j'aime mieux écouter la parole de Dieu. J'aime mieux fixer mes yeux sur les promesses de Dieu. Amen. Au lieu d'écouter les choses négatives, au lieu de remplir notre cœur avec les choses qui vont nuire à notre foi, il faut, c'est notre responsabilité de bien manger. Moi, je choisis qu'est-ce que je mets sur mon assiette, à moins que je sois invité ailleurs. Et puis, on mange ce qui est mis devant nous. Mais il faut choisir bien votre place, n'est-ce pas? Hein? Non, non. Je veux dire par cela, c'est qu'on choisit. Hein? C'est comme quelqu'un qui va au restaurant. Tu peux commander sur le menu qu'est-ce que tu veux, mais si tu sais dans un tel place, il ne sert que des choses qui sont pas bonnes, choisissez pas ce restaurant-là. Si vous savez que sur un tel poste radio, il n'y a que de cochonneries qui va nuire à votre foi, ouvrez pas le poste. Si vous savez qu'à la télévision, il n'y a que des mauvaises choses qui vont nuire à votre foi, ouvrez pas la télévision. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait pour vivre? Je veux juste vous dire une chose. La race humaine est sur la planète depuis à peu près 6000 quelques années. Et c'est juste depuis quoi donc? 50, 60 ans, même pas 60 ans que la télévision existe, n'est-ce pas? Et je ne sais pas comment, mais la race humaine a survécu jusqu'à ce point-là. Moi, je dirais que c'est une grande source, souvent, de vos problèmes. C'est les choses que vous regardez et les choses que vous écoutez. Les choses que vous lisez, ce qui entre par les oreilles, ce qui entre dans les yeux, faites attention. Laissez crever de faim vos doutes et nourrissez votre foi. Comment? Avec la parole de Dieu. Amen. Numéro 2, deuxième chose qu'on peut faire pour avoir une grande foi, bâtissez votre foi en priant par l'Esprit. Vous savez que la foi, c'est une chose spirituelle. Et la Bible dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, comment? En priant par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que, savez-vous que plus vous priez par l'Esprit, et par cela, je veux dire, en autre langue aussi, plus vous priez en autre langue, plus votre foi va être grande. Ah oui, qu'est-ce que ça donne de prier en langue? Ça bâtit votre esprit. Comme en Corinthiens 14, 4 dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, quand on prie ma langage de l'esprit, de ce que Dieu m'a rendu capable de dire, quand mon esprit est en prière, mon intelligence demeure stérile, je parle directement à Dieu, mon cœur est bâti, mon esprit est édifié et je reçois une plus grande capacité de croire. C'est pas émotionnel. Ça peut être même sec des fois émotionnellement. On voit pas qu'est-ce que ça donne. Mais c'est la foi et pas les émotions qui comptent, n'est-ce pas? Numéro 3, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une grande foi? Mettez votre foi en action. La foi, c'est comme un muscle. Si on n'utilise pas le muscle va atrophier, c'est ça? S'atrophier. Le muscle va devenir faible. Le muscle va être diminué. Tandis que si on utilise le muscle, ça va devenir de plus en plus fort. Mettez votre foi en action. La foi sans les œuvres est morte. La Bible dit que c'est la foi agissant par l'amour. Vois-tu, quand on marche dans l'amour, quand on fait ce que Dieu nous demande à faire, notre foi est en action et notre foi devient de plus en plus grande. Et juste un conseil, si vous savez que vous avez peu de foi dans certains domaines, commencez petit. Hein? Ceux qui vont au gymnase pour s'entraîner, vous savez, vous n'arrivez pas la première journée, hein, et vous ne mettez pas 200 livres. Hein, pour faire les curls, comme ce qu'on appelle ça. Hein? 200 livres pour un débutant, c'est pas mal, n'est-ce pas? C'est vraiment quelque chose. On va commencer avec les petits poids. On va tranquillement, pas vite, développer les muscles. On va agir avec ce qu'on est. On va voir, ça devient de plus en plus fort. On en met plus. On en met plus. On en met plus. C'est pourquoi il y a des personnes, des fois, ils savent qu'ils ont peu de foi dans un domaine. Mettons, exemple, pour la guérison. Moi, je crois que c'est la volonté de Dieu pour tout le monde d'être guéri. Moi, j'y crois. Parce que la Bible en parle. Mais ce n'est pas tout le monde qui a une foi développée au point où s'ils savent qu'ils ont une maladie grave et sérieuse et que ça prendrait une piqûre d'un médicament pour sauver la vie, moi, je dirais que si tu sais que ta foi n'est pas assez grande, va chez le médecin, prends la piqûre et vis. Donc, ne mets pas les paroles dans ma bouche. Quand on dit qu'on croit à la guérison divine, on n'est pas contre les médecins, on n'est pas contre les médicaments. Dieu donne la sagesse aux médecins aussi, hein? On a 5 enfants et on est content d'avoir eu des médecins, les infirmières, pour les accouchements. Hein? Mais, c'est-à-dire que, essayez pas de développer votre foi quand tu sais en avance que je ne suis pas rendu là. J'ai quelque chose, les médecins disent que si tu ne prends pas la piqûre, tu vas mourir dans 2 jours. Prends la piqûre, puis médite la parole de Dieu pour que la prochaine fois, tu sois plus grand. Amen. Si c'est une petite rhume, par exemple, utilisez tes muscles de la foi des fois. Trop facile des fois. Oh bon, je vais juste prendre des pilules, et on ne prend même pas le temps de remercier le Seigneur. Notre confiance est dans les pilules et pas en Dieu. Vous voyez un équilibre ici. Tout le monde dit équilibre. Je suis une personne, j'aime l'équilibre. Je suis extrêmement équilibré. C'est un joke, vous êtes supposé de rire. OK. Mettez votre foi en action. Quatrième chose, développez les relations avec ceux qui ont une grande foi. Une des meilleures choses que vous pourrez faire pour que votre foi puisse grandir, c'est d'avoir les relations avec des personnes qui ont une grande foi. Vous savez que les requins, on peut prendre un requin, mettre un requin dans un aquarium, et il va grandir jusqu'à une certaine longueur. Mais puis, il arrête de grandir. On le met dans un aquarium qui est plus grand, et il va grandir encore plus. Jusqu'à ce qu'il y ait un certain pourcentage de l'aquarium qui est pris, et puis il arrête de grandir. Et puis, on peut mettre le même requin dans une piscine, il va grandir encore plus. Et on met le même requin dans la mer, dans l'océan, et il va arriver à sa pleine longueur. Il va arriver vraiment aux plénitudes, au maximum de sa capacité. Pourquoi? C'est à cause de son environnement. Et votre environnement peut aider votre foi ou votre environnement peut nuire votre foi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas des thermomètres, on est des thermostats. Un thermomètre va nous dire il est telle température. Un thermostat va déterminer la température. C'est-à-dire qu'on a quand même un certain contrôle sur notre atmosphère. On ne peut pas choisir tout le monde avec qui on travaille. On ne peut pas choisir tout le monde qui habite à côté de nous. On ne peut pas choisir tout le monde qui est dans notre entourage. Mais on peut choisir tout le monde qui est dans notre cercle d'amis, n'est-ce pas? On peut choisir les personnes avec qui on va passer du temps de qualité. Amen? Et je vous encourage. Il y a des chrétiens, des fois, ils passent le temps avec les non-croyants ou, là, attention, je vais le dire quand même, avec des croyants qui ont peu de foi, qui ne veulent pas avoir une grande foi, ou des chrétiens qui sont charnels, qui ne veulent pas être spirituels. Il y a un équilibre, parce qu'on ne veut pas dire, « Mais là, je ne peux pas passer du temps avec toi parce que tu as peu de foi. » Non, 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 ce n'est pas dans ce sens-là. Vous savez de quoi je parle. Mettez pas les paroles dans ma bouche, OK? Mais vous savez de quoi je parle. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas vraiment servir le Seigneur. Ils sont très contents d'être charnels. Ils ne veulent pas grandir. Ils veulent venir à l'église de temps en temps, mais à part de ça, on va aller avoir du fun. Faites attention. Amen? Amen? On peut aider ceux qui ont une foi faible. On peut les encourager. Des fois, vous pouvez être un mentor. Hein? N'oubliez pas, si je vous exhorte en disant que vous avez une foi faible, ou peu de foi, trouvez quelqu'un qui a une grande foi dans ce domaine. Donc, forcément, on va avoir quelqu'un qui est plus fort avec quelqu'un qui est plus faible. Donc, c'est-à-dire qu'un jour, il va falloir que vous soyez prêts à prendre la personne un peu plus faible sous vos ailes aussi. Donc, ce n'est pas du tout une question de rejeter, repousser les jeunes. Toi, tu n'es pas à la hauteur de foi pour aller dîner avec moi. Ce n'est pas ça. Ça serait ridicule. La Bible dit d'avoir de la patience avec tout le monde, de supporter ceux qui ont une faible foi. Et il faut en toute chose avoir l'amour, n'est-ce pas? L'amour. Mais quand même, essayez de trouver quelques mentors. Essayez de trouver des personnes, même si ce n'est pas officiel. Pas besoin de dire, est-ce que tu peux être mon mentor dans la foi? Si tu veux le faire, fais-le. Mais si tu vois une personne et tu vois que cette personne a vraiment une grande foi dans un domaine, écoute la personne. Observe la personne. Passe un peu de temps avec la personne. Et tu vas voir la foi est contagieuse aussi. Tu passes du temps avec les personnes qui ont confiance en Dieu, tu commences à avoir confiance en Dieu toi-même. tu passes du temps avec des personnes qui parlent la parole de Dieu, tu vas entendre et tu vas commencer à parler la parole de Dieu aussi. Et ça aide. Amen. Et c'est pourquoi c'est de valeur. J'ai vu des personnes des fois qui viennent à l'église et qui commencent à avoir une révélation des choses de l'esprit et la puissance de Dieu. Et puis, ils ne passent pas assez de temps avec des autres personnes qui croient la même chose. Et leur foi devient de plus en plus faible. Et ils se laissent infecter par l'incrédulité. N'est-ce pas vrai? Et ce n'est pas ça qu'on veut. On veut avoir une grande foi. Tout le monde dit merci Seigneur pour une grande foi. Amen. Dieu est bon. Le Seigneur est bon.